Placard, au Café Action, votre émission quotidienne qui vous propose tous les jours, du lundi au vendredi, des informations sociales, économiques, médicales. Émission qui parle aussi de la santé, du droit de l'homme et tant d'autres sujets qui préoccupent les Congolais, tous les jours, sauf la politique, vous reflète aujourd'hui les réalités de Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants qui s'adonnent au métier de cireur dans le pays. À Lubumbashi, cet engouement s'explique. Tous ces jeunes évitent de tomber dans la délinquance juvénile. À Kinshasa, au Café Action de ce vendredi, va à la rencontre d'une petite fille de 9 ans. Elle est très malade et risque de mourir si on ne l'opère pas au plus vite au niveau de l'œil. En ce moment, Gloria est internée à l'hôpital Saint-Joseph. Mais les parents de cette petite fille n'ont pas de moyens pour soigner leur enfant. Restons dans le sillage du personnel soignant, plus précisément parlant des infirmiers et des laborantins du personnel administratif. Ils sont en grève depuis le 10 janvier et réclament le paiement d'une prime de risque dont seuls bénéficient les médecins. Conséquence, les malades sont abandonnés à leur triste sort. Les détails dans tous ces sujets dans un instant. Pour m'assister dans cette émission, la réalisation est assurée par un duo de techniciens et Jeudi Keshama. Vos appels sont les bienvenus pour participer à cette émission. Appelez-nous donc au numéro 081 890 68 90. Arlette Mbouy qui savait ça est là pour répondre à vos appels ou écrivez-nous à l'adresse action@radiocapi.net.
Okapi.
Okapi à Lubumbashi. Sur 95.8 FM. Nous démarrons cette émission avec Lubumbashi, où ils sont nombreux en fait. On les retrouve partout sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, plutôt de Lubumbashi. Ce sont des jeunes gens qui ont des brosses et cirages à la main. Ils accourent vers les clients qui s'approchent d'eux. Souvent, ils se bousculent pour arracher le client et par moments, ils finissent par se bagarrer. Ces enfants sont ceux, communément appelés chégués ou enfants de la rue. Tous ne passent pas la nuit à la belle étoile. Il y en a qui sont dans les centres d'encadrement, d'autres vivent en famille. Et parmi eux, il y a même ceux-là qui étudient. Pendant qu'ils ne sont pas à l'école, ils en profitent pour chercher de l'argent, soit pour supplier à la ration familiale, soit encore pour chercher de quoi payer les frais d'études. Comment en étant arrivé à ce niveau-là, d'où vient alors cette initiative et comment ces enfants arrivent-ils à gérer l'argent perçu? Est-ce pour autant dire que la délinquance juvénile est terminée? Nous allons en savoir un peu plus là-dessus avec notre confrère Jean Gandou qui est déjà en ligne. Bonjour Jean.
Bonjour Nicole.
Jean, le phénomène enfant de la rue est répandu à travers toute la République démocratique du Congo. Quelle est son ampleur à Lubumbashi?
Nicole, vous l'avez bien dit, ce phénomène est véritablement très répandu dans la capitale du Kivu. Ils sont vraiment très nombreux ces enfants et on le voit un peu partout. À tout bout de champ, avec un support en bois auquel ils frappent, la brosse pour attirer l'attention des passants. Ils parviennent ainsi à récolter de l'argent pour subvenir à certains de leurs besoins. Il faut aussi reconnaître, Nicole, que parmi eux, il y en a qui sont très, très violents. À défaut de vivre en famille, certains sont dans des centres où simplement ils passent nuit dans différents marchés de la ville et dans différents coins qui sont un peu couverts. Tout cela parce que ils sont pas les mieux cotés dans leur famille respective, Nicole.
Jean, il y a beaucoup de bruit hein, là où vous vous trouvez. Vous pouvez pas vous éloigner un tout petit peu de tout ce monde, comme ça on pourra mieux vous entendre. Alors, je vous pose directement une autre question. D'où vient cette initiative de l'autoprise en charge de ces jeunes gens qui sont en fait des enfants de la rue?
Oui, à ce propos, Nicole, les informations de possession sont un peu divergentes. Il y en a qui disent que ces enfants ont reçu l'aide, n'est-ce pas, de certains prêtres. Donc, selon les informations de possession, l'idée serait passée de certains prêtres de la place qui voulaient bien occuper ces enfants et donner ainsi plusieurs bois et plusieurs brosses et bois de tirage. Et il y en a qui parlent également de Werason, qui serait le premier à avoir envoyé à ces enfants des morceaux de bois, les tirages et autres pour qu'ils puissent s'ouvrir dans la vie. Eh bien, cette activité a commencé à occuper ces jeunes gens qui se prennent en charge et qui, alors qu'il est, je te le rappelle, Nicole, ne comptent que sur leurs propres efforts.
Oui, vous avez dit qu'il y a eu Il y a un mécène, certainement. Vous avez parlé d'un musicien, Wilson, certainement qui n'est pas le seul à assister ses enfants. Des mécènes, il y en a beaucoup. Et à ce sujet, on aimerait savoir si ces enfants, Jean, sont contents, en fait, du travail qu'ils sont en train d'entreprendre en ce moment à Lubumbashi.
Absolument, Nicole. Là, à partir de ce travail, il y en a qui savent bien payer leurs études. Il y en a également qui savent suppléer à la ration familiale. Et cela leur donne l'occasion de se départir de petits vols auxquels ils étaient souvent habitués. Donc, ils ne font plus les pickpockets pour certains tout au moins. Et tu sais, Nicole, par le passé, ils étaient indexés comme des petits voleurs, comme des futurs grands bandits. Ils conscients toutefois que cela n'est pas toujours juste. Car parmi ces enfants, il y en a qui ont de la famille et qui se donnent à cette activité pour diverses raisons, dont celle que je venais tout à l'heure là de mentionner, c'est-à-dire la ration familiale. Voilà pourquoi je voudrais que tous ensemble nous puissions suivre le petit trésor qui a été rencontré à la grande place de la Poste à Lubumbashi.
Nous avons tiré déjà le CD à Dieu à ma somme. Mais je suis là, c'est moi, c'est Dieu à la douche à ma goutte à temps. Nous avons besoin de ma somme. Nous avons besoin de ma goutte à temps. Nous avons besoin de ma somme. Nous avons besoin de ma somme. Nous avons besoin.
Oui, il a parlé en swahili, le petit trésor. Je crois qu'il serait bon, Jean, de nous résumer en quelques mots ce qu'il vient de dire.
Bien sûr, pour le petit trésor, c'est que le travail qu'il fait, il est un travail sérieux. Donc, il ne fait pas ce travail pour gaspiller de l'argent. Et l'argent qu'il gagne, il aide la famille et aussi, il cherche comment subvenir certains besoins scolaires en achetant des stylos, des cahiers et j'en passe le meilleur.
J'imagine que vous avez eu à rencontrer d'autres jeunes gens, d'autres jeunes chégués. Je ne voudrais pas le dire plutôt, mais moi j'aimerais plutôt parler de jeunes sireurs. Est-ce que tous sont du même avis que Trésor?
À cette question, Nicole, les avis sont partagés. Certains enfants prennent effectivement au sérieux ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils y trouvent leur gain et d'autres par contre considèrent cela comme étant un passe-temps. Et pour cause, enfin, ils n'y trouvent pas leur compte, comme je vais dire. Ce que justifie le fait que certains, malgré ce petit travail, ils continuent à s'adonner au petit vol. Mais dans l'ensemble, ces enfants pensent que c'est un travail bien, ils peuvent s'y adonner à leur joie et pourquoi pas aussi espérer en leur avenir.
Normalement, Jean Gandou, un enfant à cet âge-là du moins, doit aller à l'école pour apprendre quelque chose afin de devenir plus tard, quelqu'un dans la vie. Alors, pour ses parents, pour ses enfants qui ont encore leurs parents, comment les parents, analysent-ils le fait que leur enfant travaille au lieu d'étudier?
Nicole... Il y a certains parents que nous avons rencontrés à qui cette question a été posée, mais dans l'ensemble, ils sont vraiment contents. Contents parce que les enfants qui jadis étaient considérés comme le délaissé, les abandonnés, qui faisaient les pickpockets et autres, pour l'instant, ils sont en train de travailler et ils donnent un coup de main à leur famille. Et d'ailleurs, je voudrais que nous puissions suivre ce parent que nous avons rencontré et qui nous a ouvert son cœur.
Mie mzazi miko isha kuzeka sana. Makoto yake ile unakuwa nayo unanisaidia na yeye mwenyewe anajisaidia. Ili kazi haina ya bwizi hapana. Yeye kunajisaidia na mie mwenyewe mzazi wake na yeye mwenyewe namna kufunda masomo.
Une fois de plus, Jean, merci pour ce témoignage, mais je pense qu'il serait tout de même intéressant d'aider tous ceux qui ne comprennent pas le swahili, parce que vous savez, on est suivi partout en République démocratique du Congo. Dites-nous en quelques mots ce que ce parent vient de nous dire en français cette fois-ci.
Ah oui, le parent a dit qu'il est déjà vieux, hein, et le travail qu'a fait son fils, c'est pas du vol, l'enfant travaille et les fruits de ce travail permettent de subvenir aux besoins de la maison et même cet enfant arrive à payer ses études, Nicole.
Oui, donc je vois que le parent est vraiment satisfait, mais est-ce que les clients eux-mêmes, parce que bon, se faire cirer des chaussures par des jeunes, par des enfants, c'est pas toujours, je dirais, ça se fait pas toujours hein, en RDC, souvent ce sont des adultes qui le font. Alors est-ce que les clients sont satisfaits du travail que font ces enfants?
Dans l'ensemble, oui, parce que ici à Lubumbashi, avant que ces enfants ne puissent emprunter ces différentes dentaires de Lubumbashi, donc pour avoir un tireur, il fallait absolument être au centre-ville, mais alors qu'il est dans différentes communes, on trouve ces jeunes gens et ils font un travail qui est apprécié par les clients et je voudrais également que nous puissions découvrir ce que ce client nous a dit quand le micro lui a été tendu.
Oui, le travail des petits serreurs que nous trouvons à la ville de Lubumbashi, bon, nous encourageons ce genre de boulot parce que Parmi eux, il y en a qui parviennent à payer leurs frais scolaires, parviennent à s'habiller et même aussi soutenir leurs parents au niveau de leur maison, proprement dite. Par rapport à la délinquance, au lieu de on trouve d'autres délinquants abandonnés qui se livrent au vol, petit chipotage dans les sacs, dans les bus et autres, mais ceux-là, ils font quand même un travail rémunératoire qui leur permet de tenir le coup. Oui, pratiquement, ils le font bien et puis ils sont moins chers que nos papas sur eux. Parce qu'avec eux, vous pouvez avoir des chaussures boueuses, ils peuvent les faire à 50 francs. Même si vous avez moins de 50 francs, ces jeunes gens acceptent, ils prennent, ils sont beaucoup plus coopératifs que les papas.
Oui, ils sont beaucoup plus coopératifs et acceptent même à moins de 50 francs congolais pour se faire cirer une chaussure. Jean Gando, j'imagine que la concurrence est rude et que ceux qui s'adonnent à ce métier depuis, je dirais, belle lurette, ne sont pas tellement contents.
Hein. c'est que tu dis là, Nicole, est tout à fait juste. Et comme tu le sais, la concurrence n'arrange pas toujours les choses. Les vieux du métier ne veulent même pas les voir passer devant eux de peur qu'ils détournent leurs clients. Et à ce sujet, il y a un vieux que nous avons rencontré hier, qui n'a pas voulu tellement s'exprimer, mais nous avons quand même réussi à lui tirer le verre du nez et il a fini par s'exprimer. Alors, écoutons-le.
Mais vous pas ville, mais je suis Dieu et membre à vous faire. Et je vous vois, vous profiter à une cage à vous faire.
Oui, alors je vois qu'il le dit, il donne son avis avec beaucoup de bonne humeur, mais tout de même, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est parfois difficile de comprendre la langue, hein.
Bien sûr, Nicole. Il dit que il ne connaît rien de ce que font ses enfants. Et en même temps, il soutient que les enfants s'adonnent à ce qui n'est pas leur activité. Donc, ils viennent s'impliquer dans l'activité qui appartient aux autres personnes. C'est un peu ça qu'il vient à vous le dire.
Je pense qu'il n'a pas tellement tort, hein, Jean Gano, parce qu'un enfant, normalement, il doit étudier à cet âge-là, n'est-ce pas?
Bien sûr, Nicole. Pour autant que cette activité vise à lutter contre la délinquance juvénile, je crois qu'il suffirait simplement que ces enfants puissent évoluer en association avec l'encadrement de certaines personnes de bonne volonté, comme j'ai eu à le dire Nicole, qui a des prêtres qui encadrent ces enfants. Je crois que si cet encadrement pouvait être poussé beaucoup plus loin, et ces jeunes gens pourraient également voir une lueur d'espoir dans leur vie, Nicole.
Oui, nous savons que les vieux, autrement dit, ceux qui s'adonnent à ce métier depuis longtemps à Lubumbashi sont certainement nombreux. Et les jeunes, est-ce que vous avez pu estimer le nombre de ces enfants, Sireur?
Nicole, difficile pour l'heure de donner une réponse à cette question. Plus les jours passent, plus ils deviennent nombreux, plus il est vraiment difficile d'avancer un quelconque chiffre. Mais bon, ce qui est tout à fait évident, c'est qu'ils sont nombreux, on les voit ça et là, et puis et ils font leur travail et ils en sont contents, Nicole.
En définitive, Jean, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la lutte contre la délinquance juvénile? Est-ce qu'elle passe nécessairement par le canal du métier cireur de chaussures?
Nicole, les jeunes gens que nous avons rencontrés, que nous voyons aujourd'hui à travers la ville de Lubumbashi, ont aussi besoin d'espérer en leur avenir. Au lieu qu'ils soient toujours indexés à des actes de vandalisme et autres, mieux vaudrait les encourager dans leur nouvelle initiative par un bel encadrement. Donc n'oublions pas que parmi eux, il y en a qui sont scolarisés. Ils veulent profiter de leur activité pour payer leurs études, comme les jeunes trésors que nous avons suivis un peu. Seulement, Nicole, il y a également parmi eux ceux qui sont encore tout petits. Alors, ceux-là, moi, je pense bien qu'il faudrait qu'ils soient entourés de beaucoup de soins de leurs parents et pourquoi pas des centres qui s'adonnent à ce genre d'activité.
Tout petits, ils sont tout petits, mais à peu près quel âge, genre, on aimerait avoir une idée?
Il y en a qui ont 8 ans, il y en a qui ont 7 ans, 10 ans et j'en passe.
Ouais, c'est très jeune ça. En tout cas, merci beaucoup, hein, Jean Gando, pour ce dossier que vous venez de nous proposer. Portez-vous bien là-bas à Lubumbashi.
Merci, au revoir Nicole.
Et je profite de cette occasion pour vous rappeler, chers auditeurs, vous qui nous suivez partout en République démocratique du Congo, que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au numéro 081 890 68 90 ou encore écrivez-nous à l'adresse action@radiocapi.net. Voilà, nous revenons dans ce studio où nous sommes déjà avec notre invité depuis Lubumbashi. Il s'agit de Monsieur Caris, qui est en fait le président du conseil provincial de la jeunesse à Lubumbashi. Et je pense qu'il s'occupe aussi de l'encadrement des enfants, notamment des enfants des rues. Bonjour Monsieur Caris.
Bonjour madame.
Voilà, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui depuis Lubumbashi. Alors nous allons savoir concrètement dans ce que vous vous appelez le Conseil Provincial de la Jeunesse, qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'encadrement des enfants, notamment des enfants des rues?
Le Conseil Provincial de la Jeunesse est une plateforme qui s'occupe de mouvements associatifs. Les enfants de la rue, comme ils sont organisés au niveau de leur base, nous les mettons dans la catégorie des enfants qui nécessitent des mesures spéciales de protection. C'est dans ce cadre-là où on trouve des enfants qui se regroupent dans plusieurs catégories. Il y a les enfants de la rue, qu'on appelle les enfants à rupture familiale. Il y a les enfants affectés par les VIH-SIDA. Il y a les enfants malnutris. Il y a les enfants en conflit avec la loi. Il y a plusieurs catégories. Donc les enfants de la rue, nous le mettons dans la catégorie des enfants qui nécessitent des mesures spéciales de protection, dans la catégorie des enfants en rupture familiale.
Oui, mais au sujet des enfants des rues, on aimerait savoir, vous encadrez exactement combien d'enfants des rues et qu'est-ce que vous leur apprenez, je dirais, comme peut-être métier ou peut-être qu'est-ce que vous leur donnez pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie?
Nous avons initié un petit projet. Le projet, c'est dans le cadre des activités régénératives de revenus. Nous avons senti que ces enfants-là, il fallait le revaloriser. Dans le cadre de la revalorisation, il fallait que ces enfants-là puissent apprendre un petit métier qui pouvait faire que les parents qui les ont jetés dans la rue puissent les accepter. Vous allez comprendre que le Katanga, c'est une zone minière qui, après la fermeture de la grande Jigamine, les enfants et les parents se sont trouvés dans l'impossibilité d'encadrer leurs enfants. Alors, il y a plusieurs enfants qui sont allés dans la rue. Et ces enfants-là ont commencé à faire n'importe quoi, chipper, voler, se droguer, vraiment faire des choses qui ne plaisaient pas aux parents. C'est ainsi que, dans le cadre de travail social, parce que je suis en même temps coordonnateur de la plateforme de travail social du Katanga, nous avons initié des projets, et là nous avons trouvé les enfants tireurs, que nous encadrons en leur donnant des petits liens pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Nous leur donnons de brosses, nous leur donnons du cirage, nous leur donnons la plate là où les clients mettent leurs souliers, les enfants. Chaque jour, les enfants ont au moins quelque chose à mettre sous la dent. Et ainsi, ces enfants-là, quand les parents ont vu que les enfants commencent à produire, certains parents ont accepté de récupérer leurs enfants. C'est ainsi que ces enfants se retrouvent maintenant dans la catégorie des enfants dans la rue. Donc, les enfants, pendant la journée, les enfants font leur travail de sueur et la nuit, ils passent la nuit chez leurs parents.
Vous avez dit là une chose plutôt, je dirais, grave, parce que vous voulez dire que beaucoup de parents avaient abandonné leurs enfants et dès qu'ils ont appris que cet enfant qu'ils avaient abandonné avait un petit métier et que ça pouvait leur apporter quelque chose, ils ont accepté de le récupérer. C'est bien ça, si je vous ai bien suivi.
Oui, parce que quand la Jukamine a fermé pratiquement la porte, et même ceux qui sont restés à la Jukamine, ils ne sont pas payés. L'ancienne stratégie de parents de la Jukamine, c'était que quand le parent a plusieurs enfants, le nombre de sacs de farine augmentait. Ce qui fait qu'il avait aussi des primes sur son salaire. Et dans le cas de l'allocation familiale. Maintenant, quand la Jukamine a fermé, les parents se sont retrouvés avec 10, 15 enfants sous leur charge. Et les difficultés font que les parents n'ont pas su payer les études des enfants, les parents n'ont pas su payer le soin médical des enfants, les parents n'ont pas su donner de quoi manger les enfants. C'est ainsi que certains enfants ont commencé à faire comme les autres enfants qui étaient déjà sous la rue et ils sont partis. Les parents qui n'ont pas eu la force de récupérer facilement leurs enfants, cette situation-là a perduré. C'est ainsi que ces enfants-là sont retrouvés sur la rue et la situation a perduré. Et avec la stratégie des travailleurs sociaux, et moi en tant que président du Conseil provincial de la jeunesse, j'ai eu à former certains travailleurs sociaux qui de maisons d'encadrement. Et avec cette stratégie-là, avec l'appui d'un organisme international, c'est ainsi que dans plusieurs centres d'hébergement, nous avons demandé à ce qu'ils puissent faire une stratégie dans le cadre de la réinsertion sociale. C'est ainsi que nous avons pensé à faire cette activité générative des revenus et ça a porté des fruits.
Monsieur Caris, je pense que vous n'êtes pas le seul à, je dirais, à encadrer les jeunes enfants, surtout les jeunes enfants sireurs. Mais on se rend compte également que les parents, notamment à Lubumbashi, certains parents du moins, ont perdu, je dirais, leur rôle, le rôle premier en fait d'un parent. Hein, parce que normalement, un parent doit s'occuper de l'éducation de son enfant, ce n'est pas l'enfant qui doit s'occuper du parent, mais c'est plutôt le parent qui a ce devoir-là vis-à-vis de son enfant. Et j'aimerais justement que vous suiviez la réaction d'un auditeur qui vient de nous appeler au numéro 081-890-6890 et lui aussi s'occupe de l'encadrement des enfants sireurs là-bas à Lubumbashi. Suivez-le.
Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom de Alexis Mboum Kazend. Je suis le coordonnateur de l'association des agriculteurs sans frontières ici à Lubumbashi 58 Anthony Moiro. Oui, nous encadrons les petits sireurs en leur donnant les brosses et des cirages de toutes couleurs. Et ces petits sireurs, ils circulent à travers toute la province, à travers la ville de Lubumbashi pour cirer et on les paye 50 francs par rapport aux autres papas là et ils demandent 100 francs. Et après, quand les petits travaillent, ils cirent comme ça, ils gagnent beaucoup et à la fin, on les suscite, on les forme, on les apprend à venir épargner. Quand il est malade, il part à nos bureaux sur 78 Moiro récupérer cet argent. Et quand il verse comme ça, il récupère, ça lui permet aussi d'aller payer les frais scolaires, les titres. Le matin, il étudie et le soir, il fait des cirères. Et il y a quelques-uns aussi, ils cirent le matin et le soir, ils étudient. Oui, l'association des agriculteurs sans frontières sont prêts. Si on estime d'avoir un nombre là de petits sireurs, on peut les encadrer. Nous sommes prêts pour aider, pour apprendre un peu à nos frères de se prendre en charge. Nous avons cette approche-là appréciative qui est elle-même qui les fait un peu d'apprécier et on leur donne le cirage et des brosses pour qu'ils se prennent un peu en charge.
Voilà, Monsieur Caris, vous avez suivi là la réaction d'un auditeur qui également s'occupe des enfants sireurs à travers ce que lui a appelé l'association des agriculteurs. J'imagine qu'il est aussi agriculteur lui-même. Comment réagissez-vous face à cela?
Oh, il a aussi raison, hein, parce que si nous voyons les statistiques des enfants qui travaillent au Katanga, ils sont au nombre de 21,8%. Et avec les 21,8%, ces enfants-là sont disséminés pratiquement dans toutes les communes au niveau de Lubumbashi. Lui aussi a pensé à prendre en charge certains enfants, il a vraiment, nous louons son initiative. Mais quelque part, il doit aussi se faire recenser au niveau du Conseil provincial de la jeunesse ou même à la plateforme de travail social pour qu'il puisse être connu et qu'il puisse aussi être encadré.
Mais les parents, est-ce que vous attirez au moins l'attention des parents? Parce que ce n'est pas normal que les enfants travaillent, ce n'est pas normal que les enfants eux-mêmes payent leurs frais d'études, ce n'est pas normal tout ça, Monsieur Caris.
Ouais, c'est pas normal, tu le dis, hein, mais vous voyez l'état même du Congo, les enfants ne sont plus dans leurs droits. C'est ce qui fait que ces enfants doivent se prendre en charge pour essayer de faire quelque chose dans leur vie. S'ils ne se prennent pas en charge, vous voyez que ces enfants-là seront vraiment butés à plusieurs choses et même les parents seront toujours dans cet état-là de le marginaliser et de le rejeter. Mais si c'est pas, ces enfants-là sont resocialisés, si ces enfants-là sont revalorisés, et ils produisent quelque chose, parce qu'ils produisent quelque chose, les parents le récupèrent facilement parce que ces enfants-là apportent aussi, contribuent au panier de la ménagère. Ce qui fait que c'est une stratégie qui a poussé les parents à le récupérer. Parce que par jour, un enfant, s'il termine la boîte de cirage, il a au moins 1500 francs. Il achète la boîte à 200 francs et il a 1500 francs et il a au moins 1300 francs de bénéfices.
Mais les choses ne devraient pas se passer comme cela, Monsieur Caris. Normalement, c'est le parent qui a le devoir de s'occuper de l'éducation de son enfant. C'est lui qui doit le prendre en charge et ce n'est pas l'inverse qui devrait se faire. Merci beaucoup, Monsieur Caris, d'avoir participé à cette émission. Portez-vous bien là-bas, Lubumbashi.
Ok, à moi aussi de vous remercier.
Bientôt, on va se rendre à Goma. Ce sera dans un instant.
Okapi à Goma sur 105.2 FM.
À Goma, où les pays africains du bassin du Congo tenteront une fois de plus, en fait le mois prochain, de mobiliser leurs partenaires afin de préserver et de développer leurs ressources forestières qui constituent le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Ceci dans un sommet des chefs d'État des pays d'Afrique centrale concernés par l'avenir du bassin du Congo qui se tiendra à Brazzaville. Dans le Nord Kivu, il y a 29 organisations non gouvernementales engagées dans la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers qui se sont organisé en réseau depuis mai 2003. Le réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers, CREF en sigle, soumet toutes les actions de ses membres au profit des communautés de base afin qu'elles accèdent à des revenus découlant de la conservation. Moi, je n'en dis pas plus, je préfère plutôt laisser mon confrère Jean-Paul Bassila qui a fait une petite enquête là-dessus afin qu'il puisse donner un peu plus de détails à ce sujet. Je pense que Jean-Paul est déjà en ligne. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Nicole.
Voilà, un peu plus de précision à ce sujet. Alors, la première question que je vous pose est celle de savoir comment ce réseau, qui s'appelle Conservation et Réhabilitation des écosystèmes forestiers, a-t-il connu en fait sa genèse?
Oui Nicole, d'abord vous avez dit CREF en sigle, mais les responsables de ces réseaux préfèrent l'appeler réseau CREF. Hein. Et puis, réseau CREF et sa genèse a une note tout à fait particulière, surtout qu'elle coïncide comme par hasard avec un vocable qui a marqué l'attention des Congolais ces dernières semaines. Le réseau CREF a vu le jour le 20 mai 2003 dans la cité des Kanyabayonga. Et puis, à son sein, au départ, il y avait 21 organisations d'abord, partageant toutes une même vision, celle de la gestion rationnelle des écosystèmes du Nord Kivu, et se fixant comme objectif commun la plus longue cohabitation possible entre les écosystèmes et la population, tout en reconnaissant à cette dernière, c'est-à-dire la population, la possibilité de jouir de ces écosystèmes sans pour autant les détruire. Actuellement, cet objectif a augmenté, il est passé à 29 organisations.
Mais que font-elles exactement comme activité? Parce que, voyez-vous Jean-Paul, il faut être un peu plus précis pour tous ces auditeurs qui nous suivent. Beaucoup certainement ne comprennent pas très bien ce sujet. J'aimerais que vous soyez un peu plus précis. Que font-elles exactement comme activité?
La conservation et la réhabilitation des écosystèmes, Nicole, ça il faut d'abord les reconnaître, est un champ très vaste. Chaque organisation membre, pour ce qui est de ces réseaux, s'appuie sur une activité bien précise. Je préfère qu'on suive pour ça M. Mitangala Lumpu, qui est le président de son conseil d'administration, qui nous en énumère quelques-unes.
Nos membres sont dans plusieurs secteurs environnementaux, dans la conscientisation en vulgarisation, dans le reboisement avec des pépinières sur terrain, dans le monitoring des animaux sauvages qui sont en captivité dans la ville, ou dans le monitoring des produits d'origine ligneuse comme combustibles. Vous avez le sac de braise, les fagots de bois qu'on compte. Il y a l'apiculture, parce que les gens qui vont dans la forêt pour chercher le miel ne vont plus y aller. La pharmacopée, il y a les gens qui travaillent dans les plantes médicinales. Il y a le drainage des marais pour qu'on puisse capitaliser le sol. Il y a la conservation des semences.
Oui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'activités que nous a cité M. Matangala Lumpu, pharmacopie, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont en fait comme activité principale au sein de ces réseaux?
L'activité principale en cours, Nicole, c'est la vulgarisation du nouveau code forestier, comme nous l'a dit M. Alphonse Mouindo, son secrétaire général.
C'est la vulgarisation du code forestier qui voit si toutes les clauses qui sont prévues là dans ces projets rencontrent les préoccupations des communautés locales à travers le membre du comité d'orientation, mais aussi à travers les ONG membres qui sont actifs dans tous les territoires de la province. C'est un thème de recherche, alerte et statistique. Et là, nous sommes en train de préparer une étude sur la foresterie communautaire en collaboration avec le gouvernement qui travaille aussi avec la FAO.
La vulgarisation du code forestier, certainement que c'est très important parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ça donne, si je puis le dire, à ce métier. Et il est bon quand même de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans l'exploitation de la forêt. Mais Jean, on en revient au CREF. Dans quel environnement fonctionnent exactement les organisations membres de ce réseau?
En tout cas, ces organisations n'échappent pas à la réalité particulière de la province du Nord Kivu. Ces seuls témoignages parmi tant d'autres et peut bien vous faire une grande illustration là-dessus.
Si nous prenons les cas précis, vous voyez par exemple le sud du territoire de Lubero qui en décembre a été le théâtre des affrontements. Et donc cela a pratiquement paralysé toutes les activités qui étaient menées par les membres avec leur groupe cible. Et à Walika, nous connaissons le même problème. À Rutshuru, c'est la même situation.
Oui, là c'était des précisions quand même importantes. Mais on aimerait savoir, Jean-Paul, dans quel état se trouvent aujourd'hui les écosystèmes du Nord Kivu, puisqu'il faut en parler, hein, dans quel état ça se trouve exactement?
Deux réalités s'opposent, hein, s'il faut voir dans quel état se trouvent ces écosystèmes. Pour les bois, d'abord, il y aurait une note positive, selon l'ONG WWF PV Kacheche, WWF, ou le Fonds mondial pour la nature, PV, c'est un programme environnemental autour de Virunga, qui est aussi une organisation membre du réseau CREF, et à travers son chargé de communication. Cependant, pour la faune, selon toujours son chargé de communication, les tableaux seraient vraiment très sombres, on l'écoute.
Nous assistons en ces jours à une pression humaine qui s'exerce sur les ressources naturelles du parc, dont les animaux et même les arbres. Le capital animal qu'on peut retrouver dans le parc, si on peut les classer, les éléphants par exemple, les grands mammifères, il y a eu une perte dont on a pu enregistrer. Et aussi, on a vu beaucoup d'autres animaux qui quittent le pays pour se réfugier dans les pays voisins, dont l'Ouganda, qui a des frontières au niveau du parc, c'est envers l'Ouganda. Mais selon les dernières informations, nous assistons en ces jours à une pression humaine qui s'exerce sur les ressources naturelles du parc, dont les animaux et même les arbres. Le capital animal qu'on peut retrouver dans le parc, si on peut les classer, les éléphants par exemple, les grands mammifères, les éléphants, il y a eu une perte dont on a pu enregistrer. Et aussi, on a vu beaucoup d'autres animaux qui quittent le pays pour se réfugier dans les pays voisins, dont l'Ouganda, qui a des frontières administrative et même au niveau du parc, c'est un même écosystème du Congo vers l'Ouganda. Mais selon les dernières informations recueillies de part et d'autre, on enregistre au moins une dizaine de carcasses dans le parc. Et si on prend maintenant les hippopotames, nous constaterons qu'il y a plusieurs animaux tels que les hippopotames qui ont aussi diminué sensiblement avec notre recensement que nous avons eu en janvier, donc l'année 2004, au mois de janvier. Et de là, on a constaté qu'il y a une baisse. Et les hippopotames qui s'élevaient le nombre dans les années 80 à 30 000 et déjà vers les années 2004, d'ailleurs fin 2004, à 1300.
C'est terrible ça, Jean-Paul. Pratiquement tous les animaux, parce que nous savons que la RDC est un pays riche, hein, sur le plan animal. On a entendu ça tout à l'heure, hippopotames, éléphants, tout ça, on risque de perdre ça si on y prend garde. Mais j'imagine qu'en ce qui concerne la forêt, puisqu'on en parle, le bois, nous savons que beaucoup de ménages consomment à volonté le bois. Et j'imagine que là aussi, il y a beaucoup de pertes, hein, n'est-ce pas, Jean-Paul?
Oui, peut-être c'est pas ça l'avis du réseau CREF d'après les résultats de ces dernières enquêtes. Pour la seule ville de Goma, il y aurait une diminution remarquable dans la consommation des fagots de bois et des sacs de braise. Si qu'il faut comparer l'an 2004 par rapport à l'an 2003, c'est-à-dire 114 793 sacs de braise ont été consommés dans la seule ville de Goma l'année dernière au lieu de 278 092 en 2003 et 35 000 800 fagots de bois au lieu des 44 092 en 2003. Comprenez, ah, vraiment, il y a une diminution vraiment remarquable.
Il y a une diminution de la consommation de bois. En tout cas, on a du mal à croire cela. Pouvez-vous nous donner un tout petit peu les motifs, en fait, les raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui, on constate la diminution, en fait, du bois, notamment à Goma?
Ah oui, bon, pour ceux qui vivent Goma ou qui connaissent bien la ville de Goma avec ses réalités actuelles, c'est facile de comprendre. Et c'est simple d'ailleurs, les milieux d'où proviennent ces produits, donc se seraient vidés de ses habitants suite à tout ce qu'on connaît ici comme problématique d'ordre sécuritaire.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul pour toutes ces précisions. Certainement qu'on pourra vous retrouver d'ici là, Jean-Paul Bassila. Portez-vous bien là-bas à Goma. Et je rappelle aux invités que tout à l'heure, nous allons recevoir M. Augustin Ndimou, chargé de l'éducation environnementale au sein justement de ce réseau. Certainement qu'il nous donnera beaucoup plus de précisions à ce sujet. Allez, au revoir Jean-Paul et à bientôt.
Merci Nicole.
Sujet, on va recevoir notre invité qui n'est autre que Monsieur Augustin Ndimou. Monsieur Augustin Ndimou qui est chargé de l'éducation environnementale au sein du WWF PVKCHCHE. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de cette association. Monsieur Augustin Ndimou, bonjour.
Bonjour, madame.
Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui comme invité. C'est un plaisir que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Je pense que vous avez suivi le dossier qu'on a eu à développer tout à l'heure avec notre confrère qui est à Goma, Jean-Paul Bassila, au sujet du réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes du Nord Kivu. On aimerait savoir, dans le cadre de votre association, qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire face justement à la disparition de la faune et de la flore dans le pays?
Ok. Normalement, étant un projet de WWF, ici au Nord Kivu, depuis 1987, nous essayons quand même de mettre en place des stratégies de conservation du parc national des Kunga, qui vient ici du patrimoine mondial. Et de ce fait, nous développons des activités telles que des activités d'éducation avec les communautés et les activités de gestion des ressources naturelles qui autour du parc national des Kunga. Maintenant, par rapport à la pression qu'exerce la communauté vivant tout autour sur les ressources du parc, nous avons mis en place des stratégies de communication environnementale pouvant faire participer les communautés dans les actions de conservation, à savoir les actions d'éducation, sensibiliser les communautés sur l'importance économique et écologique de ce parc, et aussi développer les actions d'encadrement des enfants, parce qu'on sait que l'espoir des demain se revêt sur la jeunesse. Et aussi, nous essayons avec les mêmes communautés de développer des activités ayant trait à la gestion des ressources naturelles, telles que la mise en place de pépinières, la production d'arbres, l'installation des plantations et la protection à l'intérieur de grands primates, par exemple les gorilles, les chimpanzés, les grands mammifères et même le stock halieutique qu'on retrouve dans le lac Édouard au niveau du parc national des Kunga.
Monsieur Augustin Ndimou, malgré tous vos efforts, on a l'impression que tout cela n'est pas vraiment pris en compte, parce que tout à l'heure, on a suivi notre confrère, aujourd'hui, les éléphants sont en voie de disparition, les hippopotames, et pourtant, nous savons que l'est de la RDC est très riche, normalement, dans tous ces, pour tous ces animaux. Alors, on a l'impression que, mine de rien, toutes vos démarches ne sont pas prises en compte par les populations cibles.
Bon, ok. Donc, par rapport à ça, ça c'est une affaire interne au niveau de l'ICTN. Mais vous verrez que ce sont les guerres à répétition dans la présence du Nord Kivu et d'autres actions isolées des personnes braconniers qui essaient de diminuer le stock des animaux dans le parc. Vous remarquerez, dans un certain niveau, il y a des gens armés, non identifiés ou identifiés, qui entrent dans le parc pour faire le braconnage. Et ils vont avec les idées à l'extérieur pour vendre peu des communautés. C'est pour cela que vous allez peut-être remarquer les points de vente au niveau du Chacha, les points de vente au niveau de Nyaminima, de Kisharo, et de Kiwanda, et même au niveau des Goma. Donc, vous voyez que elles sont des situations un peu difficiles. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Nous essayons maintenant, nous, VVF, de conscientiser la communauté sur l'importance de protéger ces espèces pour notre génération future. Et d'autant plus qu'il y a aussi les recherches qui doivent faire au niveau de ces plantes pour essayer d'identifier ou bien d'identifier certains médicaments appropriés à telle ou telle autre maladie, et les recherches sur les animaux ou bien sur les plantes. Vous allez comprendre, à un certain niveau, il y a la communauté qui s'implique, mais les autres suivent à des intérêts égoïstes, essayent de ne pas s'impliquer, mais c'est une petite, un petit nombre de communautés. Donc là, ce sont des gens qui sont soit organisés par des groupes de gens mal intentionnés, soit...
Oui, monsieur, oui. Oui, tout à fait, monsieur Augustin Dimou. Justement, est-on conscient de tout cela? Oui, la population s'implique, mais j'imagine que l'État aussi a son rôle à jouer. Alors, ne travaillez-vous pas en collaboration avec l'État congolais de manière à mettre, je dirais, en fait, de vous arranger de façon à éviter d'avoir à l'avenir, je dirais, des problèmes du genre attaque par certains groupes de gens? Parce que je pense que si vous étiez organisé, notamment, si vous avez pris contact direct avec certaines autorités, je pense que vous n'auriez pas tous ces problèmes.
Ok. Donc, par rapport à ça, nous avons l'Institut congolais pour la conservation de la nature sur place ici, qui essaie d'aider et de faire même des lobbying avec les autorités politiques et même internationales, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut répondre à ces problèmes-là. Donc, il y a des réponses qu'on obtient par rapport à ces problèmes, mais aussi à un certain niveau, c'est la politique à un très haut niveau qui pourrait orienter les décisions et aider les communautés à trouver des solutions palpables à des problèmes d'implication dans les affaires de destruction du parc.
Merci beaucoup, Monsieur Augustin Andini. Je vois qu'il y a encore beaucoup à faire pour la protection de la nature ici en République démocratique du Congo. On revient avec vous pour parler d'autres sujets, d'autres informations, toujours à caractère social, mais aussi un tout petit peu dans le domaine de la santé. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, le cancer est une maladie qui tue quand elle n'est pas soignée à temps. Gloria, une petite fille de 9 ans, a peut-être le cancer. Ses parents ont fait ce qu'ils pouvaient pour la sauver. Et aujourd'hui, ils ne savent plus à quel saint se vouer, car en fait, les soins pour leur enfant ne coûtent pas des milliers de dollars. C'est en fait le dossier que nous propose aujourd'hui Nathalie Muteba. Et j'aimerais que vous suiviez ce reportage qu'elle a fait à l'hôpital Saint-Joseph. Soyez nombreux à nous appeler au numéro 081 890 68 90 pour réagir à ce sujet. Suivez donc son reportage.
Gloria est une fille de 9 ans. Un beau sourire contagieux, un regard franc, Gloria est malade. Internée à l'hôpital Saint-Joseph, le gauche de Gloria est sorti de son orbite et le genou droit gonflé.
On a Gloria, ça n'est pas. Ma belle Alice, et sa capacité n'a pas l'écolo. Je connais sa capacité n'a pas les soucis qu'elle a. Mais qui se danse, ça qui comme elle a.
C'est comme ça. Les parents de Gloria, des Congolais moyens, ont fait tout ce qui était à leur pouvoir pour sauver leur enfant. La mère, Madame Hélène, explique comment la maladie a commencé et comment ils ont atterri à l'hôpital Saint-Joseph. Aujourd'hui, limités par les moyens financiers, ils ne savent plus rien faire. Ils souhaitent rentrer chez eux. Les médecins parlent d'un cancer, mais pour en être vraiment sûr, il faut procéder à un examen, la biopsie, qui permettrait de définir exactement la maladie.
Traitement sous les alités, mais Batinda qui veut surtout ça, l'examen au babenga biopsie. Papa Zan en bon côté.
Non, biopsie en vous a combien?
Les a $20. Si au papa t'as les gazanes et la possibilité de y en cas de fin de carapamba boué, à zopé qui cité Mikolo.
Mon qui se n'y ba comme la qui
tant que tu es ba comme la qui s'y a grosse céline. Il y a injectable la joie qui déjà, si on a comprimé, il y a capsule, tu as l'air de l'air de l'air de l'air.
En attendant, le service social de l'hôpital aide Gloria et sa mère pour survivre au sein de l'hôpital, espérant ainsi qu'une solution sera trouvée.
Ah ouais, des combos naie bah tiens qu'un on a social, bah peut s'arrêter moi bilou kakulia kaka. Na tam super kisi, sur bazar na besoin kisi, sur na kena pharmacie bah peut s'arrêter. Na bah band. Bisous tous et la solution pour docteur alobaka to fanda. Tam sous muta koki komona na.
Le service social de l'hôpital Saint-Joseph dit faire de son mieux, mais il est limité par le budget lui alloué. Le seul service qu'il peut rendre à la fille, c'est de lui fournir les médicaments à la portée de leur bourse.
Oui, c'est sans commentaire, hein, c'est sans commentaire. Et j'aimerais que vous soyez là, nombreux à réagir pour ce dossier, ce sujet, parce que c'est un cas qui touche de nombreux gens ici dans le pays. Certainement, le cas de Gloria n'est pas le seul. Nous sommes dans ce studio avec le médecin traitant de Gloria. C'est le docteur Bola, qui est le médecin traitant de Gloria. Merci beaucoup, docteur, d'être venu dans ce studio pour nous parler du cas de cette petite fille qui est très, très, très malade. Merci beaucoup et je vous dis pour commencer bonjour.
Bonjour, madame.
On aimerait avoir des précisions pour le cas de la petite Gloria que nous venons de suivre, docteur Bola. On nous a dit tout à l'heure, en suivant le reportage de Nathalie Muteba, qu'elle pouvait avoir le cancer, mais jusque-là, on n'est pas sûr. Qu'en est-il exactement?
Ben, merci. En fait, Gloria, c'est une fille qui est venue, qui est venue chez nous à l'hôpital depuis un mois pour une tuméfaction au niveau de la cuisse droite. En fait, c'est la tumeur, c'est une tuméfaction qui a commencé depuis plus d'une année. Donc, c'est un enfant qui avait de douleurs au niveau des genoux depuis un an. Elle allait à l'école, mais depuis cette année, elle n'a pas été à l'école à cause de cette douleur-là. Alors, ils ont été dans plusieurs centres pour les traitements. Elle a reçu des traitements symptomatiques. Ça ne marchait pas. Et la tuméfaction s'est aggravée. C'est alors qu'ils sont allés dans un dispensaire où on a pu inciser. On a incisé la masse qui était au niveau de la cuisse. Et depuis qu'on a incisé, ça fait 4 mois, la plaie ne se cicatrise pas et la masse ne fait qu'augmenter de volume. Ce qui fait qu'ils ont été, après un mois d'internement dans ces centres de santé, ils ont été transférés dans un autre hôpital qui nous l'a transféré. Et il faut dire que pendant qu'ils étaient dans ces centres de santé, ils ont remarqué la saillie de l'œil, donc l'exophtalmie, comme on appelle en médecine, donc l'œil qui sortait de l'orbite.
Donc du genou, il y a un autre, je dirais, une autre maladie maintenant qui se développe au niveau de l'œil.
Au niveau de l'œil. Et ils l'ont amené à l'hôpital Saint-Joseph essentiellement pour l'œil. Donc l'enfant a été reçu dans notre service d'ophtalmologie qui a consulté l'enfant et qui a pensé à plusieurs choses dont une septicémie, une tuméfaction.
Mais jusque là on n'est pas encore sûr de la maladie dont souffre Gloria.
On n'est pas encore sûr parce que quand on nous a amené l'enfant, on a traité comme un sepsis, mais on se disait que probablement ça peut être une masse tumorale qui peut être une tumeur maligne.
Probablement.
Parce qu'on n'a pas encore fait les examens et les examens ne sont pas à la portée de l'enfant. Et si dans notre hôpital on était capable de faire cet examen, on l'aurait fait à titre scientifique.
Oui, vous avez dit si dans votre hôpital vous auriez pu faire cet examen. Il y a un service social à l'hôpital, madame. Docteur, on a suivi.
Oui. Il y a des services sociaux, mais nous n'avons pas ces services. Par exemple, nous voulons faire la biopsie. C'est pour faire un examen anatomopathologique. Dans notre hôpital, on ne le fait pas.
La biopsie coûte 20 dollars.
20 dollars et il faut aussi l'examen anatomopathologique.
Donc,
quand on fait la biopsie, c'est pour arriver à faire l'examen anatomopathologique.
Ah, donc.
Qu'on ne fait pas dans notre hôpital.
Oui. Et jusque-là, les parents de Gloria, qui sont démunis, n'ont pas pu payer ces frais, c'est ça?
Ils n'ont pas pu payer.
Donc, on ne connaît rien.
On ne connaît rien. Nous, on a pu faire ce qu'on peut faire dans notre hôpital, la radio, pour voir comment se comporte l'os. On voulait faire l'échographie de l'œil, mais l'œil est à découvert. On ne peut pas faire l'échographie.
Cette petite fille doit beaucoup souffrir, hein, docteur.
Elle a très mal quand on fait les pansements.
Et tout ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est de lui donner des calmants, je pense.
On lui donne des calmants et en attendant qu'on puisse avoir la certitude que c'est une maladie cancéreuse, une mal cancéreuse, pour enfin écrire et prescrire les médicaments anticancéreuse.
Gloria souffre faute de moyens et Gloria risque de mourir parce que ses parents n'ont pas d'argent et parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas la soigner gratuitement. C'est bien ça?
Nous, notre service social est capable de donner ce qu'il y a dans notre hôpital. Donc, ce qui n'existe pas dans notre hôpital, ce qui n'est pas faisable sur place chez nous, notre hôpital ne sera pas donné.
Il y a quand même un petit problème, vous savez, docteur, c'est bien que vous soyez là avec nous dans ce studio. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans notre ville, je pense que c'est partout qu'on a le même constat, qu'aujourd'hui, pour être traité dans un hôpital, il faut des moyens. Mais je pense que quand vous avez un cas qui nécessite vraiment une intervention directe, surtout une intervention chirurgicale. Je pense qu'à l'hôpital, on peut le faire. Et après, c'est aux parents de se débrouiller pour trouver la somme d'argent qu'on doit payer. Après, les parents peuvent le faire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas soigner une personne quand elle est malade, quand cette personne n'a pas d'argent automatiquement, je dirais, sur le champ.
Non, je me répète. Nous avons un service social et dans notre hôpital, nous soignons beaucoup de cas qu'on appelle des cas... sociaux, dans des malades qui n'ont pas des moyens la plupart. Ça veut dire que nous sommes capables, si nous voyons que la famille est vraiment, vraiment diminuée, on peut donner ce que nous avons chez nous.
Dans votre hôpital.
Cet enfant n'a pas acheté les médicaments qu'il a eu au début. La radio n'a pas payé.
Ça, c'est votre hôpital.
Ça, c'est notre hôpital.
Saint-Joseph. Ouais. J'ai retenu l'hôpital Saint-Joseph qui se trouve à Limité d'ailleurs. Oh. Mais dans d'autres hôpitaux, cela n'est pas possible. Hein.
Je ne sais pas, je ne connais pas la réalité dans d'autres hôpitaux.
Nathalie Mouteba est maintenant avec nous dans ce studio. Nathalie, la question que j'aimerais vous poser est celle de savoir, j'imagine que quand vous êtes arrivée à l'hôpital Saint-Joseph et que vous avez eu vent du cas de Gloria, je pense qu'en tant que mère, vous avez eu très mal. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, quand on est maman et qu'on n'a pas d'argent, vraiment, surtout quand on a une enfant, une petite fille qui est malade, c'est vraiment difficile, n'est-ce pas?
Oui, c'est très difficile quand on n'a pas les moyens qu'il faut. Mais j'aimerais revenir parce que tout à l'heure, je vous ai suivi en train de poser la question au docteur Bola. Le docteur Bola est médecin. Il a fait son travail de médecin. Le service social que nous avons contacté sur place, ils sont remplis de bonne volonté, il faut le dire, Nicole. Et il n'y a pas que le cas de Gloria qu'ils traitent. Il y a beaucoup des personnes qui sont là-bas que eux-mêmes appellent des indigents. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en mesure de subvenir ou de pouvoir payer les frais médicaux, les médicaments et tout ça. Et le service social de l'hôpital Saint-Joseph les prend en charge. Et malheureusement, il faut le dire aussi, ils n'ont pas un grand, très grand budget. Ben vous, par exemple, pour le cas de la petite Gloria, j'ai posé la question. Et pour la biopsie qui coûte, semble-t-il, 20$, ils ne sont même pas en mesure de le faire.
Et c'est pas faisable à l'hôpital Saint-Joseph. Hein. Ça, chez eux, bon, ils peuvent
pas
le faire.
Je pense que ce n'est pas uniquement à l'hôpital Saint-Joseph. Non, il n'est pas uniquement là-bas. Je pense que c'est beaucoup, parce que le service social de l'hôpital Saint-Joseph, je pense qu'il dépend d'une autre autorité qui leur alloue aussi un certain budget.
Je pense que Dr Bola est bien placé pour nous donner des précisions à ce sujet, Dr Bola.
Oui, je voulais dire que c'est la biopsie, c'est un acte qu'on va faire pour prélever une partie de la masse. Et cette partie, donc le produit de la biopsie, doit être ramené dans un ailleurs pour les examens. C'est à ce niveau que ce sera difficile. Nous, on peut bien prélever, mais le produit va traîner dans notre hôpital parce que les parents ne seront pas amenés où on va faire l'examen, notamment pathologique. Mm-hmm. Et voilà qu'on ne fait pas chez nous.
Oui, Nathalie Mouteba, vous qui avez fait cette enquête à Saint-Joseph, j'imagine que vous avez été voir en fait comment fonctionne exactement ce service social, combien de cas ils peuvent prendre en charge au niveau de leur hôpital. Est-ce que vous leur avez posé cette question-là?
Non. Ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus, c'est vrai. Mais M. Vital, que j'avais contacté, m'a clairement dit qu'ils avaient beaucoup de cas qu'ils traitaient. Effectivement, il faut dire que l'hôpital Saint-Joseph est un hôpital qui reçoit le Congolais moyen. C'est-à-dire que ça ne vous coûte pas énormément cher de vous faire soigner là-bas. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, à la limite, si vous traînez, je ne pense pas que votre facture dépasserait les 100, 400 ou même $500. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, les services sociaux ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Hein, ce qu'ils peuvent. Donc, je crois qu'à ce point-là, à ce niveau-là, vraiment, il ne faudrait pas les en vouloir.
Oui, et justement, les auditeurs réagissent. Beaucoup se sentent certainement touchés par le cas de Gloria, 9 ans, malade, et peut-être qu'elle souffre du cancer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore très clair parce que la petite fille n'a pas encore pu faire cet examen de biopsie qui pourra, en fait, nous dire si elle a réellement le cancer. Il y a M. Toussaint, Loa Béa, qui nous a appelé de Mbujimaï et qui a réagi pour ce cas-là. Il dit ceci, il dit, si les parents manquent $20 pour faire soigner cette pauvre fille, je suis prêt à contribuer. On ne doit pas laisser l'enfant mourir par manque d'une petite somme. dit-il, pendant que nous faisons des dépenses initialement, donc inutilement, au lieu de sauver une vie. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Toussaint Louabéa, d'avoir réagi, d'avoir pensé à assister la famille de Gloria, vous qui nous appelez de Mbujimaï. Mais ce serait bien de nous dire comment vous comptez vous y prendre concrètement pour envoyer cette somme d'argent et pouvoir ainsi assister la petite Gloria. Le docteur Bola est là. Elle est prête peut-être à être en contact directement avec vous. Et ce serait bien de nous rappeler pour nous dire comment nous pouvons entrer en contact avec vous. Continuez donc à appeler et continuez à réagir pour les différents sujets que nous développons dans cette émission. Il y a aussi Dr Chulu qui nous a appelé de Kisangani et lui dit ceci. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, rendre la dignité des parents. C'est un cas qui doit réveiller beaucoup de Congolais, donc le cas de Gloria. Les parents doivent donc être rémunérés décemment. Ça, c'est le point de vue de Dr Chulo qui nous a appelé de Kisangani. Des cas comme ça, il y en a beaucoup, autrement dit des enfants, des personnes malades, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas se faire soigner, tout simplement parce qu'ils ne sont pas peut-être rémunérés comme ils se doivent. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres cas qui sont, je dirais, qui ne peuvent pas être soignés ici, dans ce pays, parce que tout simplement, l'État n'a pas mis suffisamment de moyens dans certains hôpitaux. Nous avons dernièrement évoqué le cas de la petite Eugénie qui est malade, elle aussi, et qui est internée aux cliniques universitaires. Elle, peut-être qu'elle pourra être sauvée, si seulement si elle arrive à partir d'ici là pour la Belgique, parce qu'il y a un monsieur qui a accepté de l'adopter. Mais pour aujourd'hui, nous parlons du cas de Gloria. Et docteur Bola, je m'adresse encore à vous. Et ma question est simple. Aujourd'hui, quand on n'a pas d'argent, on meurt.
C'est vrai que dans notre pays, aujourd'hui, presque tous les enfants la plupart des enfants sont mal nourris. Sous-alimentés, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de moyens. Le Congolais vit moyennement. Ce qui fait que quand on tombe malade, on a des difficultés d'abord pour se reconstituer. Et quand on n'a pas de médicaments, il est difficile encore de s'en sortir. Et donc actuellement, les moyens financiers sont nécessaires, en tout cas quand on est malade.
C'est nécessaire. Et aujourd'hui, pour revenir au cas de l'hôpital Saint-Joseph, c'est vrai que vous ne défendez, vous ne pourrez dire que ce que vous pourrez dire, hein, vous êtes médecin. Oui. Mais aujourd'hui, en tant que médecin, docteur, si on vous amène un cas, je dirais, très grave, et vous vous retrouvez devant une famille démunie, est-ce que vous pourriez, je dirais, assister cette famille-là, soigner la personne qui est malade, sans pour autant qu'on ne vous donne, je dirais, une somme avant que vous n'assistiez cette famille-là? Est-ce que vous pouvez le faire?
Je dis tout de suite oui, nous pouvons le faire, nous le faisons d'ailleurs. Les enfants qui viennent, parce que je parle d'enfants parce que je suis en pédiatrie essentiellement, mais il y a dans deux services aussi, on fait les mêmes services. Donc, quand nous recevons des malades, des enfants qui sont très graves, qui sont vraiment en danger de mort, nous donnons ce que nous avons à donner. Nous les assistons et nous demandons l'argent après, nous facturons après. Et c'est en tout cas, c'est ce que nous faisons tous les jours. L'hôpital ne pourra pas faire ça pour tous les malades, mais nous les faisons quand nous avons des moyens. Il nous arrive parfois, je vous donne un exemple, de ne plus avoir de sang dans la banque de sang parce qu'on a donné gratuitement à plusieurs enfants, à plusieurs malades qui n'ont pas restitué. Et il nous arrive de manquer même du sang. Et les malades qui viennent après, ils trouvent qu'il n'y a pas de sang, on ne leur donne pas du sang. Ils vont dire que voilà, nous ne sommes pas servis parce qu'on demande d'abord l'argent. Pourtant, ce n'est pas l'argent qu'on demande.
Oui, ça c'est à vérifier, hein, docteur, parce que je sais que les auditeurs nous suivent. Oui. Et dans bien des cas, les gens se plaignent. Vous savez, quand on va à l'hôpital, ils demandent tout le temps de l'argent avant. Et aujourd'hui, on ne parle même plus. Au départ, docteur, je reviens peut-être à l'aspect. Au départ, on parlait d'une loi médicale qui existait. Vous pouvez me rappeler un peu, vous prêtez serment en fait, hein?
Le serment d'Hippocrate.
Le serment d'Hippocrate. Oui. Mais aujourd'hui, on parle du serment d'Hippocrate. Beaucoup de gens le disent, il n'y a pas que moi qui le dis. Et je ne sais pas si vous pourriez me contredire, mais en tout cas, du moins, les gens mettent en doute ce serment-là chez plusieurs médecins, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on soigne seulement ceux qui ont des moyens. On soigne seulement, je n'aime pas trop le dire, mais on soigne seulement les riches et les pauvres, eux, meurent. Docteur Médard nous a appelé du Kasaï oriental. Il dit, au nom de l'ONG Probadi, nous voulons contribuer pour Gloria. Ah, docteur, je pense que ça vous intéresse. Et il donne même son numéro de téléphone. Il demande à ce que vous puissiez l'appeler au numéro 98 093 186. Je reprends le numéro 98 093 186. Merci beaucoup, docteur Meda, d'avoir intervenu, d'avoir été touché par le cas de Gloria. Je pense que vous êtes nombreux à nous suivre et que vous êtes aussi nombreux à réagir pour ce cas-là. Des cas comme ça, il y en a beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de gens démunis qui souffrent, qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Soyez nombreux à réagir et soyez nombreux à intervenir pour ce sujet. Partout où vous nous suivez à travers le Congo, je remercie particulièrement tous ceux qui ont appelé pour réagir sur le cas de Gloria. Et je remercie également le docteur Bola qui nous a fait ce plaisir-là de participer à cette émission pour répondre aux préoccupations des gens. En tout cas, merci beaucoup docteur Bola. Certainement, on aura peut-être l'occasion de nous revoir d'ici là.
Merci.
Merci à vous. Merci. Alors, on va poursuivre dans Okapi Action. On va parler maintenant d'autre chose. Mais avant cela, une petite pause.
Okapi,
Okapi,
le souffle du Congo.
Okapi.
On va rester toujours dans le même thème, thème santé, thème médical, mais plutôt prenons un autre angle cette fois-ci. Vous savez qu'il y a grève des infirmiers depuis quelque temps. Les malades sont ainsi abandonnés à eux-mêmes. Il y a même perturbation des activités dans les hôpitaux ici à Kinshasa. C'est peut-être là la conséquence de la grève déclenchée depuis 2 semaines par le personnel de santé de Kinshasa. Le taux de participation a même atteint presque 100% dans différents hôpitaux de la ville. Par ce mouvement de grève, les infirmiers réclament aussi la prime de risque qui a été accordée, semble-t-il, seulement aux médecins. Pour en savoir un peu plus, nous recevons Jody Keshama dans ce studio. Bonjour Jody.
Bonjour Nicole.
Le personnel médical Jody de Kinshasa est en grève pour réclamer une prime de risque. Comment tout cela a-t-il réellement commencé Jody?
Ben, vous savez, Nicole, que les infirmiers, les laborantins et autres courent un certain nombre de risques dans l'exercice de leur métier du fait qu'ils côtoient souvent les malades. Dans les années écoulées, vous vous rappelez, on parlait de l'épidémie d'Ebola qui avait fait des victimes, non seulement chez les malades, mais aussi parmi le personnel soignant. Alors donc, ils côtoient des tuberculeux, des personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc il y a beaucoup de risques dans... C'est un métier qui comporte beaucoup de risques. À cet effet, le gouvernement avait accordé l'année dernière une prime de risque seulement aux médecins. Alors, se sentant un peu déconsidérés, les infirmiers, laborantins, radiologues, anesthésistes, nutritionnistes et autres ont déclenché depuis le 10 janvier 2005 un mouvement de grève pour réclamer aussi cette prime qui est en fait un droit.
Un droit, c'est vrai, mais on aimerait savoir une petite précision tout de même. Jody Keshama, vous avez fait le tour de quelques hôpitaux de Kinshasa. Est-ce que ce mouvement de grève, je dirais, est constaté dans tous les hôpitaux de la ville?
Laissez-moi vous dire que c'est presque à 100%. Donc, de la maternité de Kitambo à l'hôpital général de Kinshasa, en passant par la pédiatrie de Kalimilembe, le constat est le même. Les hôpitaux sont presque déserts et les médecins sont assistés par les stagiaires et ils sont devenus presque des cumulards. Donc vous trouvez le médecin qui perçoit l'argent des malades, c'est lui qui établit les fiches et c'est lui qui les soigne. Donc à l'hôpital général par exemple, certains pavillons sont vides. Donc plus d'une personne déplore cet état des choses. Écoutons cette réaction.
La grève des infirmiers n'est pas une bonne chose. C'est vrai que c'est un droit réclamé aux infirmiers, aux médecins de faire cela, parce qu'ils réclament l'amélioration de leur situation salariale. C'est vrai, mais pour il y a des services qu'on ne peut pas citer la grève. Tu peux te rendre compte que depuis qu'ils ont commencé, il y a des gens qui sont morts, des malades. Moi, j'ai un fait, excusez-moi, qui illustre exactement ce qui s'est passé. Une soeur vient de perdre son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est asthmatique. Elle a piqué une crise de la malaria. On l'amène à l'hôpital général. Sur place, on trouve des médecins stagiaires qui n'ont pas la maîtrise de la machine, qui ne savent pas comment appliquer l'oxygène à l'enfant. Quelques temps après, l'enfant a succombé, l'enfant est mort. Ça, c'est quoi? Parce que les médecins n'étaient pas là, les infirmiers n'étaient pas là. S'ils étaient là, on aurait dû sauver l'enfant. Donc ça, c'est un cas isolé. Mais il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, donc il y a plusieurs cas de ce type. Enfin, avez-vous rencontré, Jody Keshama, quelques grévistes dans ces hôpitaux?
Oui, j'ai à l'hôpital général, par exemple, j'ai rencontré des infirmiers et autres administratifs qui, pour la plupart, font les 100 pas à l'extérieur de l'hôpital. L'un d'entre eux s'est exprimé à notre micro.
Bon, normalement, grève est allée qu'on revendiquait droit au yabiso ba infirmier. Pour droit na biso est allée bafoué, dans le sens que basa qu'on paye sa biso salaire na biso te, basa qu'on paye sa biso primaire et single na biso te. Musala to yokana ki bien sûr, tozo sala, mais droit na biso siko basa qu'on paye sa biso te. Le yangwana to revendiquer droit na biso te. Malade aye, biso to kosala te. Puisque l'État a l'ingo paye sa biso droit na biso te, sauf malade yana koufigasi. L'État n'est pas responsable, l'État est bien, est responsable. Mais va payer sa biso droit, la biso bango moko ba est bien.
Oui, on peut dire qu'ils ont raison de réclamer comme ça, haut et fort, leurs droits. Mais je dis, on aimerait savoir quel est alors le climat qui règne entre les médecins et les infirmiers grévistes.
À l'hôpital général de Kinshasa, où je suis passé par exemple, j'ai eu l'impression qu'il s'est engagé un bras de fer entre les médecins et les infirmiers grévistes. Tenez, dans une lettre datant du 14 janvier 2005, adressée au médecin directeur de l'hôpital général de Kinshasa, le syndicat national des médecins accuse les grévistes d'avoir barricadé l'entrée de l'hôpital et chasse tout malade autre que leurs parents qui viennent pour consulter le médecin et se faire consulter par ce dernier. Ils ont enfermé tout matériel de travail. À cet effet, les médecins ont pris les résolutions suivantes. Donc, les médecins stagiaires prennent en charge les malades. Et les médecins assurent les fonctions de la facturation et de l'encaissement des recettes. Les grévistes et leurs parents ne peuvent être consultés par les médecins tant qu'ils continueront à chasser les autres malades, sauf cas prévu par la loi. Et les médecins doivent éviter d'engager des discussions avec les groupes des grévistes qui ont manifesté une haine viscérale à leur égard et de bien se protéger. Donc ça c'est d'après cette lettre. Alors nous avions parlé avec quelques grévistes, ceux-ci ont rejeté en bloc ce genre d'accusations formulées contre eux.
Oui, parce que là, à suivre la résolution, les résolutions que vous venez de nous faire la lecture, je dis, les médecins stagiaires maintenant prennent en charge les malades, au lieu que ce soit les infirmiers.
Oui, c'est ce qui est fait actuellement.
Et vous avez pu constater ça là où vous êtes allé dans les hôpitaux?
Tout à fait. À l'hôpital général, j'ai vu des infirmiers stagiaires qui travaillent avec, qui aident, n'est-ce pas, qui assistent les médecins, qui sont, je peux dire, débordés.
Merci beaucoup, Jody Kachama, pour toutes ces précisions. Nous allons recevoir tout à l'heure deux invités. Il s'agit de Monsieur Patrice Samu Kongo, qui est secrétaire général de la SOLSICO, autrement dit Solidarité Syndicale des Infirmiers et Infirmières du Congo. Et le deuxième invité, c'est Monsieur Mutamba Mpoyo, qui est secrétaire général de SINCAS, autrement dit le Syndicat National des Cadres Agents et Employés des Secteurs de Services. Merci, Jody Kachama. On vous retrouve tout à l'heure. Fidèles auditeurs. Voilà, chers auditeurs, on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais avant qu'on se sépare, il y a quand même lieu de faire quelques précisions. Et il faut aussi recevoir à cet effet des invités qui amènent plus d'éclaircissements sur les différents sujets que nous développons dans cette émission. Raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons deux invités. J'ai cité leur nom tout à l'heure. Et ils sont là pour nous donner un peu plus d'éclaircissements au sujet de la grève du personnel de santé. Non médecins, mais je préfère dire paramédicaux, qui sont dans les hôpitaux, ce personnel qui est justement en grève. Alors, avant que je ne leur pose la question, j'aimerais quand même revenir sur le message d'un auditeur qui a réagi sur l'un des sujets qu'on a eu à traiter tout à l'heure. Il s'agit du cas de Gloria, qui est internée en ce moment à l'hôpital Saint-Joseph et qui n'a pas de moyens. Ses parents n'ont pas de moyens pour la soigner. Elle est très malade et risque même de mourir. Certains auditeurs ont réagi et sont prêts même à assister les parents de cette petite fille, notamment M. Mutombo Chimanga, qui nous a appelé de Kananga et qui est prêt à contribuer par 10 dollars. Donc il accepte de contribuer avec 10 dollars et de ce fait, il demande à ce que les parents de Gloria ou peut-être le médecin traitant de Gloria l'appelle au numéro 98 70 49 83, autrement dit 98 70 49 83. J'espère que ceux qui connaissent le médecin traitant de Gloria ne manqueront pas de le lui faire savoir. Pour l'instant, nous revenons avec nos deux invités qui sont déjà dans ce studio. Je pense que vous l'avez déjà constaté. Il s'agit tout simplement de l'un qui représente en fait le syndicat des infirmiers Il s'agit de Monsieur Patrice Sam Congo, qui est secrétaire général de la SOSICO, autrement dit Solidarité Syndicale des Infirmiers et Infirmières du Congo. Bonjour.
Bonjour madame.
Et nous sommes aussi avec Monsieur Mutamba, j'espère que je ne massacre pas votre nom. Monsieur Mutamba Mpoyo, qui est le secrétaire général du SINCAS, syndicat national des cadres agents et employés des secteurs de services, autrement dit la partie technique à l'hôpital, n'est-ce pas?
Oui, c'est cela.
En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être venu carrément ici au studio de radio CAPI. Nous savons que vous êtes en grève depuis quelques temps, mais nous savons aussi que les personnes, les habitants de la ville de Kinshasa continuent à être malades. Malgré le fait que vous êtes en grève, on ne peut pas échapper à cela. Alors, vous acceptez de continuer, de poursuivre votre grève, sachant qu'il y a des gens malades qui risquent même de mourir si vous ne les assistez pas. Ma question s'adresse aux responsables du syndicat des infirmiers.
Merci, madame, pour la question. Et lorsque nous avons déclenché le mouvement de grève, et nous avons adressé notre revendication au gouvernement. Alors, ce n'est qu'avant-hier que le gouvernement a pu se réunir pour trouver une solution à notre problème. Alors, maintenant, nous sommes en train d'attendre pour qu'on nous dise la modalité de ce que nous allons faire. Au vu de ceci, nous allons maintenant pouvoir nous adresser à la base pour rendre compte de ce que nous allons nous attendre avec le gouvernement. C'est au vu de cela qu'on peut suspendre notre grève. Mais avant, ce n'est pas encore possible. Il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce qu'on nous a accordé. Et en deuxième temps, nous allons rendre compte maintenant à notre base. Lorsque nous allons nous concerter avec la base, c'est à ce moment-là qu'on peut donner la suite.
Ce serait bon de rappeler aux auditeurs qui nous suivent ce que vous réclamez exactement au gouvernement congolais.
Bon, ce que nous réclamons, c'est que depuis l'année passée, les médecins ont introduit une requête que nous avons appréciée et en son temps, le 26 avril, nous avons dit que la revendication des médecins était bonne. Et la résolution de cette revendication ne devait pas être partielle, il fallait qu'elle soit globale. Et nous avons pensé que l'autorité nous avait compris, même si elle ne nous avait pas reçus. En octobre, une commission s'est réunie et a trouvé la solution à ce problème. Cette commission a compris que le médecin ne travaillait pas seul. Parce que dans l'une de ses conclusions, elle avait dit qu'il fallait qu'on trouve la solution au problème des médecins, mais qu'il fallait qu'on résolve aussi le problème pour les autres. Maintenant, c'est dans l'application que les gens ont réagi négativement par rapport aux autres. Nous avons trouvé que c'était vraiment un rejet ou une négligence totale des autres, comme si eux ne valaient absolument rien. Mais en fait, madame, je voulais aussi rappeler un élément par rapport à la première question que vous avez posée. Vous avez dit que on a fait la grève malgré que les gens tombent malades. Mais en fait, nous, notre rôle est de soigner. Le rôle du syndicat, c'est d'essayer d'éloigner le plus possible la grève. Parce que la grève, c'est le dernier moyen auquel on arrive, comme cet enfant à qui vous avez refusé le pain et qui constate que vous commencez à lui demander d'aller à l'école sans lui donner. Alors il se met à pleurer, il refuse d'aller à l'école. Bon, c'est que ça, ce n'est pas une fin en soi pour nous, c'est seulement la conclusion d'un constat malheureux qui fait que on puisse nous rejeter.
J'aimerais quand même rappeler aux auditeurs que vous êtes en train de réclamer ce qu'on appelle en fait la prime de risque. C'est ça. Mmh. Cette prime a été accordée, semble-t-il, aux médecins.
Non, il ne semble pas. C'est confirmé. Hein, depuis le 31 décembre 2004, ils ont reçu et en janvier, ils ont encore reçu le deuxième mois. En fait, nous avions dit dans notre lettre du 24 novembre que il ne fallait pas que le gouvernement s'hasarde à payer au seul médecin, parce que nous étions déjà informés de la chose. S'il payait au seul médecin, nous allions réagir, hein, tel que nous venions de le faire là-bas. Mais le gouvernement n'a pas pris ça en considération. Hein, et vous comprenez que il n'y a pas d'autre moyen de revendication pour un syndicat que de passer à l'exécution de ce qu'il a promis.
Autrement dit, laisser mourir les malades, ne pas assister les malades, c'est bien ça.
Est-ce que vous êtes passé déjà dans les couloirs de l'hôpital général? Chaque semaine, il y a au moins deux travailleurs qui meurent. Vous pensez que nous avons l'obligation, nous, de mourir à côté des malades. Nous ne souhaitons pas la mort des malades. Nous pensons que chacun de nous contribue, et si chacun de nous contribue, on doit tenir compte de la proportion du travail de tout un chacun.
Mais je pense, monsieur Mutamba Mpoy, c'est bien ça?
Oui.
Je pense que les infirmiers aussi, à leur niveau, vous êtes du personnel technique, mais je pense qu'à votre niveau aussi, vous avez un devoir. Les médecins prêtent ce qu'on appelle, ils prêtent serment d'Hippocrate. Et oui. Vous, à votre niveau aussi, je crois que vous prêtez...
Chez nous aussi, il y a des gens qui vont prêter ou qui ont commencé à prêter. Mais en fait, n'oubliez pas, madame, que prêter serment, c'est prêter serment de rendre service et rendre service chez quelqu'un qui donne la décision aussi de payer. On ne prête pas serment de faire le bénévolat. Hein. Nous prêtons serment pour pouvoir travailler, et quand nous travaillons, nous avons aussi le droit de recevoir une rémunération. Hein. Dans cette rémunération, il y a aussi l'aspect des primes qui interviennent.
À supposer qu'aujourd'hui, un membre de votre famille soit malade.
Non, mais il ne faut pas aller très loin. Déjà, mon secrétaire exécutif provincial est tombé malade le vendredi qui précédait le lundi de la grève. C'est que pendant toute cette période de grève, lui s'est retrouvé hospitalisé à la clinique Ngaliema en l'absence de tout le personnel. Bon, il n'en a pas pleuré. Il n'en a pas pleuré, il est resté comme ça. Bon, il a subi ce que les autres ont subi. Et il l'a fait de cœur joie, parce qu'il savait que la revendication était fondée.
Lui, c'est un adulte, mais je m'adresse à M. Patrice Samongo. À supposer que votre enfant soit malade, comment vous allez réagir?
Oui, madame, il n'y a pas plusieurs fois de réagir, il n'y a pas plusieurs manières de réagir. Nous sommes en grève parce que c'est un droit sage, nous venons de dire. Alors, si l'enfant est malade, il doit subir tout ce que les autres sont en train de subir. Mais c'est là, ça ne va pas tellement me choquer, dans la mesure où le gouvernement sait que nous avons posé une revendication réelle auquel il devrait donner la réponse. Alors, mon enfant, comme les autres enfants, sont les mêmes, ils sont en train de subir.
On va vous donner l'exemple.
Non, j'aimerais quand même préciser. Oui. Donc, vous êtes prête à laisser mourir votre enfant pour une revendication?
C'est une revendication fondée, et on ne la fait pas pour faire souffrir la population, seulement parce qu'elle est population, ainsi que nous revendiquons pour mieux les servir. Hein, parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons commencer à faire la grève, parce que la grève se fait de plusieurs manières. Hein. Vous pouvez venir, vous me trouver en poste de service, et tout en étant en poste de service, je refuse de vous servir. Mais vous préférez que je fasse une grève silencieuse, ou bien que je fasse une grève bruyante, où on doit résoudre le problème une fois pour toutes, et puis je reviens totalement au travail.
Mais jusque-là, parce qu'il y a grève, c'est vrai, mais une grève ne dure pas éternellement. Jusque-là, comment réagit le ministère de la Santé? Vous avez dit ils ont promis de réagir, mais jusque-là, qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement?
Chapeau au nouveau cabinet du ministère, hein, parce que madame la ministre qui est partie ne nous avait jamais reçu, ce qui a créé tous ces malaises auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. Le nouveau ministère qui est là, ou le nouveau cabinet qui est là, a commencé à nous recevoir déjà avant même la prestation des serments. Hein, il nous reçoit et nous sommes en négociation totalement franche, et nous constatons qu'il y a de bonnes avancées. Tout ce que le ministère a promis est en train de se réaliser. Et la dernière des grandes promesses que nous avons eues, c'était que la commission interministérielle devait siéger sur ce problème, ce qui a été fait avant-hier. Et déjà depuis hier, nous avons constaté les effets.
C'est-à-dire
les effets, c'est que au niveau du ministère, ils ont commencé déjà à réunir les gens pour résoudre le problème. Même si nous trouvons qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas dans ce cas, parce que c'est seulement la partie gouvernementale qui est en train de se réunir en omettant le banc syndical. Hein, c'est un élément qu'on doit vite corriger si on ne veut pas continuer à nous voir rester en train de regarder les passants.
Oui, il y a eu plusieurs revendications que vous avez eu à faire. Est-ce que jusque-là, le ministère a déjà répondu à vos revendications, hormis le fait que vous réclamez une prime de risque? Il y a eu d'autres revendications que vous avez faites?
Non, mais les revendications antérieures, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ont été réalisées avec un certain rythme. Mais celle-ci est intervenue depuis l'année passée. Le ministère n'a pas réagi, et même toutes les autres autorités envers qui nous avons écrit, personne n'avait réagi. C'est pour cela que nous sommes finalement très fâchés. Et Nous nous parlons ici en termes encore acceptables, mais allez voir nos membres sur terrain, vous rendrez compte qu'ils sont plus que fâchés.
Donc il n'y a personne, il n'y a pas de personnel, paramédicaux, il n'y a pas d'infirmiers dans les hôpitaux, personne n'est là pour assister le médecin à son travail, et vous êtes prêts à accepter cela jusqu'à ce que le ministère de la Santé réponde à vos revendications.
Nous déplorons que les médecins aient... parmi les médecins, il y a des médecins qui sont très bons, qui comprennent tout ce que nous disons, mais il y a aussi parmi eux des intégristes. Et comme dans toute société, c'est souvent les intégristes qui impriment le rythme à tout le groupe. Bon, nous disons que l'équipe à la santé, les soins à la santé, c'est le travail d'une équipe. Et en tant que travail d'une équipe, quand on doit résoudre le problème, on essaie de résoudre le problème pour tout le monde. Et d'ailleurs, madame, nous constatons que nous avons le malheur d'avoir cette histoire des honoraires. C'est finalement la question des honoraires qui est en train de diviser les gens. Nous sommes de très bonne foi. Les médecins ont grévé. Nous avons continué à répondre à leurs demandes. Nous avons même appuyé leur grève. Mais nous, quand nous avons grévé pour revendiquer nos droits, ils commencent à nous traiter de tous les noms du monde.
Monsieur, s'il vous plaît, il y a Papa Charles, en fait, c'est comme ça qu'il se fait appeler, l'auditeur qui nous a appelé, Papa Charles, qui nous a appelé de Kinshasa. Il réagit à vos propos, il dit ceci, il y a quand même le principe du service minimum. S'il n'est pas observé, vous n'avez pas droit au salaire non plus. En ce moment-là, ceux qui travaillent à votre place doivent en bénéficier. Ce sont quand même aussi des vies humaines. N'exagérons pas. Vous avez aussi des familles, et cela arriverait à vos membres de famille. Donc en fait, il pose la question de savoir si cela arrive à vos membres de famille, comment réagirez-vous? En fait, il rejoint un peu...
votre préoccupation de
oui,
tout à l'heure.
Mais vous avez déjà répondu à cette question-là, et je vous informe aussi qu'on a essayé de contacter le ministère de la Santé par rapport à la grève des infirmiers, mais jusque-là, il n'a pas encore réagi, et semblerait-il même qu'il s'est décommandé en dernière minute. Et il y a une autre précision qui vient d'arriver, il y a un autre auditeur qui cette fois-ci nous a appelé, non, il nous a écrit par le courrier net, et il s'appelle Jean Toumba. Il nous dit ceci, c'est bien de commencer une grève pour réclamer ses droits, mais ces messieurs, autrement dit vous, vous devez savoir que nous devons, en fait lui dit, mais ces messieurs doivent savoir aussi que les Congolais ont eux aussi droit à la vie. N'est-ce pas?
Volontiers.
Pourquoi n'ont-ils pas organisé le service minimum? Donc, il rejoint un peu le premier auditeur qui nous a appelé. Il précise qu'on ne peut pas fermer les hôpitaux parce qu'on réclame une prime. Ces messieurs doivent savoir être responsables devant la nation. Je pense que c'est un problème de non-assistance en personne, donc à personne en danger. Ça, c'est une précision qu'a apporté un auditeur qui nous a appelé par action@radiocapi.net. Il y a un troisième auditeur qui nous a appelé par téléphone. Donc au 081 890 68 90, c'est monsieur, en fait c'est papa Aloïs, c'est comme ça qu'il se fait appeler, et lui nous a appelé de Kipushi. Il précise, il dit, il faut que les infirmiers fassent un travail, autrement dit le service minimum ne serait que pour les cas d'urgence. Comment vous réagissez face à toutes ces préoccupations?
Merci beaucoup. Nous pensons que ils ont tout le droit de dire ce qu'ils pensent. En fait, au syndicat, quand nous décidons de faire quelque chose, nous ne le décidons pas en tant que tête, nous le décidons en tant que communauté qui donne des impulsions à la tête, et c'est la tête qui va exprimer ce que la base a dit.
Soyez plus précis.
Voilà, c'est que nous, quand nous avions voulu, à notre niveau, quand nous avions voulu organiser la grève, nous avions demandé qu'elle soit le service minimum. Mais maintenant, malheureusement, les autres étaient tellement fâchés, tellement fâchés de constater qu'on a même payé deux mois de suite aux médecins, qu'ils ont dit, ça c'est se moquer de nous. Il ne faut pas continuer à nous prendre comme des torchons, pendant que nous avons aussi droit à la vie.
Oui, je me rends compte que vous êtes prêts à gréver jusqu'à ce qu'on répondra à vos préoccupations, mais il y a quand même une date, non? Vous grévez jusqu'à quand?
Nous vous avons dit que le ministère a été très collaborant avec nous, et même la vice-présidence nous a reçus. Nous évoluons et nous pensons que l'évolution pourrait être positive, mais ça ne dépend pas totalement de nous.
Il n'y a pas une date encore déjà prise?
Nous ne pouvons pas donner des dates comme ça. Hein, nous devons nous concerter avec notre base tout à l'heure en quittant le studio et nous pourrons peut-être vous dire de quoi il va retourner.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je remercie également tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Je remercie surtout nos invités, M. Patrice Samukungu, secrétaire général de Solsico, et M. Mutamba Mpoyo, secrétaire général du 5AS.
Merci madame.